Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, le débat a déjà commencé sur Sud Radio et oui, on est prêt à débattre, on est chaud ce matin sur Sud Radio avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, membre du CESE, je ne sais pas pourquoi on met ça toujours. Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit, vous collaborez également au mensuel Causeur. Frigide Barjot, Virginie Thélène,
oui, les deux.
Présidente de l'Avenir pour tous et Dominique de Montvallon, journaliste, éditorialiste politique. Bonjour Dominique.
Bonjour Valérie.
Alors, écoutez, on va revenir sur ce qui s'est dit hier dans Capital. C'était Gérald Darmanin, notre ministre des Finances, qui appelle à traquer les fraudeurs sur les réseaux sociaux. Il annonce qu'une partie de l'inspection des impôts va regarder sur les réseaux sociaux si votre revenu correspond à votre train de vie. Donc voilà, Macron a-t-il réussi son 11 novembre? Et puis 17 novembre, le gouvernement doit-il tenir? Est-ce que vous êtes prêt à manifester? On va parler de tous ces sujets. Enfin, si on a le temps, parce que vous êtes très bavard.
Oui, puis on a des coups de cœur aussi.
Beaucoup de cœur, beaucoup de choses à dire. Dominique, on va commencer avec un coup de cœur.
J'ai brusquement troublé parce que je sais de ce que je vais dire, mais j'ai oublié son nom. Vous allez m'aider.
Francis Joyon.
C'est le vainqueur de la route. C'est le vainqueur de la route du Rhum. C'est le vainqueur de la route du Rhum. Ce qui m'a amusé, c'est ce qui m'a frappé.
On était persuadé que François Gabart allait gagner.
Oui, ce qui m'a amusé.
Et donc, c'est qui
m'a frappé, c'est qu'il a gagné au sprint, ce qui est rarissime. C'est même jamais arrivé dans la route du Rhum. Pardon.
La première 98 secondes entre l'anglais et le gars qui avait un nom.
Ce qui est rarement arrivé, maître.
Ouais. Mais en tout cas, c'est bon quand même. 62 ans, il est arrivé 7 minutes avec 7 minutes.
Je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'il faisait la route du Rhum. Je trouve ça assez...
Non, ce n'est pas la première fois qu'il faisait la route du Rhum, c'est la première fois qu'il la gagnait. La
non, mais est-ce que vous pouvez nous redonner le nom? Parce que moi, j'étais.
Francis Joyon.
Ah, Joyon.
Je suis tellement troublé et bluffé par sa performance que j'en oublie son nom.
Sans
l'antériorité de sa démarche, etc.
C'est lundi matin. Non, le bateau a gagné 3 fois la route du Rhum, mais c'est pas lui qui barrait.
Je suis pas totalement ridicule. Et puis évidemment, je reconnais que c'est facile. Il y a un petit côté représentant de l'ancien monde qui est quand même capable d'une jolie performance. Ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Enfin, en tout cas, à des gens comme moi.
Surtout Gabart, si je peux me permettre. Gabart, il est beau, il est jeune, il gagne tout, ça commence à bien faire. C'est
Alors, 60, c'est pas si vieux non plus.
Alors après, vous avez tous choisi, vous avez des coups de cœur et des coups de gueule, plutôt communs à vous, Régis et Virginie. Je vais peut-être faire le mien avant, parce que je pense que vos coups de gueule vont nous lancer sur des longs débats. C'était Erdogan qui faisait partie des invités du président de la République et qui a fait le signe des frères musulmans. C'est le signe des loups gris, c'est-à-dire c'est le pouce replié dans la main. Voilà, un leader.
Non mais je rêve.
Voilà, donc ça choque personne. C'est vrai que Trump s'en est pris plein la figure, peut-être à juste titre, je ne sais pas. On a parlé dans l'émission précédente avec Anne Barthès qui du fond de son studio a lancé Fuck you, you're not welcome. Mais Erdogan, visiblement, ça choque beaucoup moins de monde.
Je ne comprends pas comment on n'a pas réagi.
Alors écoutez, moi je vais vous dire pourquoi, c'est parce que nous ne le savions pas. Donc là, vous nous l'apprenez, Valérie, mais j'ai passé beaucoup de temps sur les chaînes d'infos avec la commémoration et nous ne l'avons pas vu.
J'ai découvert
c'était
par hasard
totalement
ce matin.
Noyé dans la masse de cette.
Mais c'était hors cérémonie. Hein.
Ah oui, voilà.
Il était dans la rue
mais je veux dire, c'était hors
mais
des triomphes.
Mais effectivement, on nous a un peu focalisé sur Trump, donc on n'a pas vu ce que faisaient effectivement les autres populistes, entre guillemets, par ailleurs.
Et vous savez quoi, comble de l'ironie, il s'est endormi pendant le discours de Macron, je suis en train de voir ça sur Internet. Voilà.
C'est Erdogan.
Donc c'est Erdogan. Non, Trump, il regardait en l'air, il avait l'air.
Ce que j'aime beaucoup chez Erdogan, c'est sa femme qui est toujours avec un scaphandre. On a vraiment l'impression qu'elle va partir en plongée, à l'ancienne d'ailleurs, comme dans Tintin.
Mais sans que ça justifie rien, cela va de soi dans mon esprit. Pourquoi était-il là? Il faut être clair. parce qu'il nous aide à contenir un certain nombre de migrants qui sinon, nous Européens, qui sinon, non, pas dire déferleraient, mais en tout cas viendraient directo en Europe. Non, mais attends, il y a aussi ces.
Je
c'est
pense
de,
qu'il
c'est
est
du réalisme.
Non, je suis pas politique. Tout à fait d'accord. Je pense que il y a une logique. On en parlera à propos du mémoriel. Ouais. C'est que la Turquie était un ennemi de la France à cette époque. Dès lors qu'on invite l'Allemagne, il y avait les empires centraux. Hein, je pense que les Autrichiens étaient là aussi. Je trouve ça normal qu'on l'invite. Ce qui est complètement anormal, c'est qu'on fasse silence sur toutes ces provocations. Enfin, c'est quand même.
Non, mais
c'est ça qui
est. Je vous dis, ils n'en ont pas parlé.
Il y a 50 000 prisonniers politiques en Turquie. Fallait-il inviter Erdogan ? C'est aussi une des questions qu'on peut se poser. Il y a des journalistes qui sont en prison. Enfin, et donc, il fait ce geste du pouce replié à l'intérieur de la main sans qu'effectivement il y ait le moindre. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de ce matin. Mais on va revenir sur ces commémorations.
On reçoit Mohamed Ben Salman à l'Élysée. Avec tous les honneurs dus à son triste rang, alors qu'il est en train de massacrer un peuple entier. Il y a des photos abominables. Et ça fait longtemps que moi j'avais entendu dire, et par des gens sérieux, que dans les familles, on sélectionne les enfants pour savoir ceux qui vont mourir de famine et ceux qui
survivront. Oui, mais enfin, il l'a reçu au moment où on avait un espoir, avec un jeune mec qui se pointait, en se disant ça va être formidable. Là, il a donné quelques signes. Donc voilà, c'est pas maintenant qu'on le reçoit.
Attendez, quand Mme Parly vient dire.
Non,
je ne sais pas si mes armes sont utilisées là-bas, mais c'est honteux.
Non, mais je suis d'accord, sauf qu'on l'a reçu à un moment où il était porteur d'espoir. Voilà. Allez, coup de gueule commun. Donc,
non, moi, c'est un coup de cœur.
Oui, c'est un coup de cœur.
Mais oui, alors donc, Virginie. Je voulais parler, mais alors j'apprends toi aussi, donc
d'Asia
Bibi.
Oui.
Asia Bibi.
Oui.
Cette jeune
menacée de mort au Pakistan.
Cette jeune chrétienne agricultrice, enfin paysanne de milieu pauvre, donc qui a été accusée de blasphème pour avoir bu dans un puits, surtout d'avoir soi-disant attaqué Mahomet.
Oui.
Or, sachez que le blasphème contre le Coran, c'est la prison. Contre Mahomet, c'est la mort, c'est la pendaison. 9 ans dans le couloir de la mort, elle est sortie le 31 octobre dernier. Et on a tous vu, et les gens qui s'en occupent, dont cette journaliste de CNews, Anne-Isabelle Tollet, qui est sa représentante, entre guillemets, officielle, voilà. Et il faut dire, le gouvernement qui s'en occupe aussi, enfin en tout cas on a vu Marlène Schiappa et Anne Hidalgo qui avaient fait des grandes, il y a 2-3 ans, bon bref, voilà, tout le monde est quand même derrière, normalement derrière elle, mais les manifestations étaient telles qu'elle n'a pas pu sortir de prison. Nous avons lancé, nous, l'Avenir pour tous, une pétition dimanche dernier, qui est déjà 30 000 signataires sur change.org, je le dis pour les gens
qui... On l'accueille en France, non ?
Asile pour Asia.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vienne ici. Parce que le problème, c'est que déjà, l'Angleterre a dit non.
Voilà, elle aurait été refusée par l'Angleterre par crainte que ça ne crée des troubles
justement
dans la communauté pakistanaise anglaise.
Elle est devenue un bouc émissaire pour les milieux islamistes.
Oui, mais alors, je suis évidemment d'accord.
Et pour l'instant, attends, je veux juste dire où elle en est. Elle n'est pas partie du Pakistan.
Non, elle est toujours au Pakistan. Là-bas.
C'est vrai qu'on ne sait pas s'il faut trop en parler ou pas assez, mais il y avait quand même tout le monde hier à Paris.
Ouais.
Et j'espère
qu'ils en ont parlé.
Au déjeuner à l'Élysée, ils ont pensé à Asia Bibi. Et j'espère parce qu'il y avait quand même plusieurs personnes du gouvernement, dont Jean-Yves Le Drian, qui a déjà demandé à l'Assemblée nationale qu'elle vienne, que la France était prête à l'accueillir. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que ça va être suivi des faits ? Et on ne sait pas, en revanche, les tractations diplomatiques, où elles en sont.
Alors, je suis évidemment totalement d'accord. Maintenant, ils avaient tellement de sujets qui fâchaient, en ont-ils parlé ? J'en sais rien. Surtout que ça se fait plutôt en tractation, effectivement. Mais d'un autre côté, c'est vrai que d'un côté, je suis bêtement, probablement lâche. Et je me dis, tout d'un coup, on l'accueille en France.
Anglaise.
Tout d'un coup, on l'accueille en France. J'ai envie de le faire et je pense qu'il faut surmonter ça. Mais dans un pays comme le nôtre, je ne peux pas penser, je n'ose pas imaginer les représailles. C'est vraiment insupportable.
Mais quelles représailles ?
On est dans un pays.
C'est pas, Sophie.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit les gens ont peur et je peux un peu comprendre parce que je pense qu'on est dans un pays islamisé avec des islamistes, on n'ose pas le dire, qui se savent toutes les occasions pour.
Non, mais on va pas la mettre en grande banlieue dans le 9-4.
Ça, c'est ma colère, ça. Non, mais attendez, j'apprends que la Grande-Bretagne, c'est pas confirmé officiellement, refuse de recevoir Asia Bibi pour pas avoir d'ennui.
Bah,
la Grande-Bretagne,
le motif n'est pas confirmé, mais le refus est acquis.
Le refus est acquis. La Grande-Bretagne, qui a résisté seule à Hitler un moment, aujourd'hui, c'est d'une lâcheté un signe.
C'est vrai.
Première observation. Et moi, je veux pas que mon pays soit lâche. Je veux pas que mon pays soit lâche. Et ceux qui seront pas contents, je veux dire, il faudra prendre les mesures qui s'imposent. Excusez-moi, je suis un peu chaud là-dessus. Deuxièmement, quand il y a eu cette immonde campagne de manifestation avec cette hurlance, ces éructations barbares. Oui. Où étaient les représentants de la communauté musulmane? Où étaient ceux qui tensent en permanence l'islamophobie, etc.? Rien, pas un mot. Et où étaient, c'est mon troisième point, où sont les signataires de ces pétitions pour recevoir les migrants de l'Aquarius? Où il est, monsieur Cédric Héroux? Où sont les Omar Sy et compagnie? Nulle part, là. Là, on les entend pas. Ils signent plus.
Non, il y a, hein, y a non, l'avenir
français. C'est vraiment, alors que la France reçoive, ça, je veux dire, je vais répondre. Bravo, mais j'espère bien. Hein. Non. Cette séquence est épouvantable.
Mais je ne disais pas autre chose. Je disais non, j'espère bien, mais je comprends les gens qui ont les jetons.
Sophie,
Sophie,
il faut que vous sachiez quand même que les gens qui s'occupent d'Asia Bibi depuis longtemps, depuis 9 ans, sont français et pour une grande partie chrétiens français.
Bien.
Il y a les deux. Il y a des gens plutôt de gauche, comme je vous ai dit, mais il y a aussi derrière, le Vatican est très impliqué, et il y a l'aide à l'église en détresse avec Marc Fromager.
Dis donc, on est efficace, hein, 9 ans pour libérer une femme, c'est lamentable, mais on n'a aucun
là-bas,
pouvoir.
C'est très compliqué. Donc,
c'est très compliqué, mais c'est eux qui...
Exactement, déjà, elle est vivante.
Allez, on se retrouve dans un instant, il y aura votre coup de gueule, Sophie, à propos des carburants. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio et on parle. Sophie de Menton, votre coup de gueule, on ne l'a pas eu, mais ça va nous emmener sur le débat à propos des carburants, je pense.
Oui, c'est vrai, parce que je regardais mon compte Twitter ce matin en pensant à Sud Radio. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Brune Poirson.
Poirson.
Il y a un air.
Oui,
on dit
bien. Oui. Bon, d'accord, pas brune, vous voyez ce que
là,
je veux dire.
Il n'y a pas de discussion politique sur ce sujet. Et qui dit
Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Intermarché. Du coup, vous allez aussi faire baisser le bio à prix coûtant.
Alors, il faut
j'y viens. Et puis, vous allez lutter contre le suremballage en plastique pour faire baisser les coûts des produits, puisque vous êtes contre le greenwashing. Et elle faisait allusion à un article dans Ouest France qui disait effectivement que les grandes surfaces vendent le carburant à prix coûtant.
Cher, oui.
Ils sont tous ensemble. Donc, au lieu de s'en réjouir, elle tire à bout portant en disant qu'ils se font de la com. Mais je rêve. Et Bercy, qu'est-ce qu'il fait avec ses taxes? Je veux dire, qui en permanence fait de la com en baissant, donnant un chèque ceci, un chèque cela, pour diminuer les impôts qu'il contribue à hausser. Et j'ai trouvé que flinguer la grande distrib gratuitement, la ministre...
Elle a pas tort dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'ils font de la com. Ils ont qu'à faire prix coûtant.
Mais vous êtes
ils
pas contente qu'ils fassent de la com en baissant le prix d'essence?
Ils ont récupéré un blé monstrueux du CICE, etc. Donc,
comment un blé monstrueux?
Si.
Il faudrait arrêter un peu de flinguer les grandes surfaces qui ont énormément de défauts, dont involontairement on les a foutus hors des villes de tuer le petit commerce. En attendant, il faut vivre des millions de gens. Les gens qui n'ont pas d'argent, qui sont vraiment dans la nécessité, ils vont dans les grandes surfaces.
Pourquoi ils ne le font pas partout? Pourquoi sur l'essence? Pourquoi pas sur le bio?
Mais ils le font très souvent, ils font des promos sans arrêt.
Non, c'est interdit maintenant, les promos.
Bah alors voyez, en plus on leur a dit...
Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais moi je suis si on peut acheter l'essence moins chère, je suis d'accord. Donc je vais dans les grandes surfaces. D'ailleurs, je n'y vais plus parce que je n'ai plus de voiture. Donc je vous le dis tout de suite.
Bien.
Voilà, en vélo avec Basile, nous circulons en vélo.
Ministre se précipite pour les flaguer, je trouve ça extraordinaire.
J'écoute pas trop ce que dit Brune Poirson. Parce que c'est à chaque fois on a envie de pleurer quoi.
Bah,
donc on va passer ces journées à sangloter. Effectivement, pourquoi est-ce qu'ils mettent l'essence moins chère? Parce que c'est un prix d'appel. Parce que on vient, nos parkings, nos business, hein, c'est le principe de la grande distribution. Donc les gens viennent, s'approvisionner là. Il y a l'essence, etc. Et on vous dit, mais comment se fait-il qu'ils ne promotionnent pas le bio, c'est-à-dire qu'ils ne se comportent pas comme les commerçants éventuellement du 4e arrondissement de Paris? Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de toiser les gens comme ça, de les mépriser à ce point. Les gens, ils n'ont pas d'argent, ils en ont peu, ils sont obligés de compter, ils cherchent, c'est pour ça que le 17, ils vont bouger, etc. La brioche, comme on aurait dit... C'est épouvantable, je veux dire, de ces équipes...
Tu parlais de l'essence bio, c'est ça?
Non, c'est la ministre qui disait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le prix coûtant.
Non, mais s'ils font prix coûtant sur l'essence, pourquoi ils ne font pas prix coûtant sur le
reste?
On découvre l'Amérique, enfin, c'est incroyable.
Vas-y, Dominique. Et en plus, c'est une réflexion idiote.
Non, c'est pas ça. On sait, et c'est pas parce qu'il y a un mouvement du 17 dont on va parler, dont on verra ce qu'il sera, que les grandes surfaces vendent à prix coûtant leur carburant. Bon, d'accord. Alors pourquoi ils vendent pas tout ce qui est dans leur boutique à prix coûtant? Bon, d'accord, ok.
Et puis à perte aussi, mais la vente à perte est interdite. Ils le faisaient de temps en temps. Attends,
ouais. Qui a dit ça? La ministre.
Elle a dit ça, vraiment, j'ai pas entendu ça comme ça, moi. Mais bon, s'il l'a dit, c'est idiot.
Elle a dit...
C'était sur le fil Twitter de Sophie de Menton, donc ça fait sûrement...
Dominique, s'il vous plaît.
Oui, ça.
Voilà. Sophie de fake news, ça le fait pas.
Non, ça je fais. Jamais.
Donc on est très surveillés.
Non, mais on est... Alors, les grandes surfaces vont vendre à prix coûtant. Elle n'est pas d'accord.
Oui, bon, voilà.
Mais enfin, c'est la moindre des choses, quand même.
De vendre moins cher. Alors, qu'est-ce que va faire le gouvernement aujourd'hui? Il y a donc un grand rendez-vous interministériel pour essayer de trouver une solution. Est-ce que le gouvernement va céder? Est-ce que la peur de ce 17 novembre et du blocage général va faire bouger le gouvernement, va leur faire faire un geste? Non,
ce qui est intéressant, me semble-t-il, au moment où nous parlons, ce lundi, c'est que absolument personne au gouvernement ou dans les oppositions ou ailleurs, ou chez les journalistes, me semble-t-il, ne peut savoir comment va se dérouler la journée du 17. Quelle en sera l'ampleur? Qu'est-ce qui se dégagera comme tonalité? Est-ce qu'une nouvelle génération ou pas de leaders politiques vont s'affirmer à cette occasion-là? C'est complètement imprévisible. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se greffe sur des mécontentements à propos de la hausse des carburants, mais au-delà de ça, qui font que la situation globale en France aujourd'hui est électrique, voire explosive. C'est vrai. Ouais. Mais impossible de savoir ce qu'il en est. Tout le monde est aux aguets.
Bon, en tout cas.
Et tout le monde se tient au balcon.
Mais il y a visiblement
une colère. La colère n'est pas discutable. Les colères ne sont pas discutables une seconde.
Absolument. En même temps, il y a, si Virginie, je puis me permettre, Sophie, il y a quand même une... Alors, moi, je suis bien placée pour les manifs du 17 novembre, puisqu'il y a 6 ans pile, c'était un samedi, 17 novembre, nous descendions dans la rue, mais pas pour une problématique conjoncturelle et populaire, pour une problématique structurelle beaucoup plus large, et nous avons mis contre toute attente, parce qu'il y avait beaucoup moins de battage médiatique, des classes... intermédiaire et supérieur.
Virginie, rappelez pourquoi quand même, parce que c'est un peu allusif, votre propos.
C'était à propos de mon point de vue, et moi j'ai été quand même propulsée comme une sorte de citoyenne, un peu comme Jacqueline Miclot, qu'on appelle sur Twitter Jacqueline Barjot justement, ou bien l'autre, la jeune de banlieue.
Qui a lancé cet appel,
une pétition à 800 000. Nous, on a commencé aussi par une pétition.
Rappelez pourquoi.
Mais je rappelle. C'était le projet de loi Taubira pour lequel nous manifestions, en tout cas moi, et j'avais eu l'accord de l'Église qui disait qu'on allait ouvrir un mariage aux personnes de même sexe avec adoption plénière, attention, donc changement de la structuration sexuelle.
Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, est-ce que vous avez le sentiment, on n'est pas à la même époque absolument, et puis les thématiques sont différentes, qu'il y a quelque chose de ce que vous avez vécu.
Oui, c'est ce que je vous dis.
Est-ce qu'il y a quelque chose de ce qu'elle avait vécu qui se passe aujourd'hui?
Virginie,
on sort une personnalité, des personnalités citoyennes. Moi, je suis sortie vraiment pour ça. La date, pardon, pour plein de gens de droite, c'est une date qui fait
fait sens.
Oui, mais le combat n'est pas le même.
Absolument. Attendez, Valérie. Il y avait un combat structurel qu'on a essayé de ramener à quelque chose de catégoriel, ce qui n'était pas le cas, c'est le changement de la structuration de la reproduction humaine. Et deuxièmement, il y avait aussi une convergence des droites dans la rue.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
Attends, convergence des droites dans la rue. Là, ce qui me frappe énormément, c'est que il n'y a pas de gauche. Mélenchon n'est pas là, il vient de se prendre une raclée.
Il a appelé à soutenir la manifestation.
En gros, ce qu'on voit dans les médias et ce qu'on ne voyait pas nous, mais ce qu'on a vu vraiment dans la rue, c'est cette union des droites qui s'est faite. À l'époque, déjà,
la droite, elle n'est pas très présente sur ce coup-là.
Ah bah alors, pardon, le Rassemblement National, Nicolas Dupont-Aignan...
Qui n'a pas appelé à manifester. Marine Le Pen a dit qu'elle n'y serait pas...
Ah, Marine n'y est pas, mais ils ont appelé à manifester. Nicolas Dupont-Aignan, plus d'1 million de tracts. Et
la France Insoumise aussi.
Ouais. Non, bah, mais moi, alors, j'entends pas Mélenchon.
Mais c'est les droits pour les murs.
La question que pose Valérie, c'est est-ce que le gouvernement va faire quelque chose.
Est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce que le gouvernement va faire des propositions? Et on va y répondre dans un instant, Sophie. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio jusqu'à midi en direct. Vous retrouverez André Bercoff tout de suite après. Je suis avec Régis de Castelnau, avocat, Virginie Frégide Barjot, présidente de L'Avenir pour tous, Dominique de Montvallon et Sophie de Menton. Donc nous parlons du 17 novembre. Le gouvernement doit-il tenir? Est-ce que vous allez manifester, Sophie?
Non, je n'irai pas manifester.
Mais dans votre
oui,
tête.
Oui, j'espère.
Voilà.
Oui, j'espère. D'abord, je suis à vélo.
Le
gouvernement ne va pas céder. Parce que d'abord, il y a un principe, c'est que réformer le pays... C'est la rue qui gouverne. Réformer ce pays. Emmanuel Macron, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il peut se gourer, faire des erreurs, etc. Il est courageux. Et il a envie de réformer ce pays. Deuxièmement, la question de Valérie était... Est-ce qu'ils vont céder? Est-ce que ça va avoir une influence?
Est-ce qu'il va y avoir des propositions?
Mais moi, j'aimerais quand même soulever
l'attention
sur le fait que c'est insupportable. On fait une pub non-stop sur cette manif.
Mais
oui, les gilets
jaunes,
la grande différence. C'est bientôt... est-ce que vous pensez que toutes les 10 minutes, les radios, la presse,
les télés,
etc. Comment est-ce qu'on fait une campagne de pub médiatique nationale pour, en gros... attirer l'attention des gens, puisque personne n'est très content que l'essence, effectivement, soit plus chère. Donc, pourquoi pas? Je trouve que c'est un vrai, vrai problème, que ça finit par être une atteinte à la démocratie, à la réflexion des gens, que cette espèce d'incitation inconsciente, j'accuse pas directement les médias de vouloir les mettre dans la rue, mais ils ont envie de voir, ils ont envie d'y être, et ils mettent la...
Voilà. Oui.
J'espère que le gouvernement ne va pas céder, et il ne devrait pas céder.
Entendre le terme atteinte à la démocratie quand on sait dans quelles conditions Emmanuel Macron a été élu
Mais de façon... On peut contester complètement ce que fait Macron, mais on est encore en République.
Attendez, on est encore en République, les conditions dans lesquelles il a été élu...
C'est par les médias.
Pas que par les médias, par une opération judiciaire que je connais par cœur. Tout le monde judiciaire est parfaitement d'accord avec moi, tout le monde le sait.
Parlons des gens qui sont en colère, mais ne revenons pas sur des histoires comme ça.
Je rajouterai juste ici. Que les comptes de campagne, c'est ma spécialité pendant 35 ans, d'Emmanuel Macron sont radicalement illégaux. J'ajouterais que
c'est
le pas
là, c'est vous qui êtes pourquoi il n'est pas poursuivi dans ce cas-là.
Parce qu'il est président de la République. Il est président de la République.
Allez, revenons à nos moutons.
J'y reviendrai.
Et la France insoumise.
Moi, je veux bien qu'on soit pas de mon avis.
Donne les chiffres.
On parle de l'essence. On parle d'essence.
Donc, mon autorité, je le récuse.
Donc, 17.
Il y a déjà eu plusieurs livres écrits sur la question.
17 novembre.
Il y en a plein.
17 novembre. Est-ce que le gouvernement va céder, va lâcher du lest ou pas?
On ne peut pas dire que le gouvernement va lâcher du lest parce que
Virginie,
tu as raison.
Oui.
C'est que c'est contre Macron. C'est moins la question.
Voilà, c'est le prétexte.
Allons-y là-dessus. Précisez votre
sens. Je pense que c'est une réaction avec des processus de radicalisation que
absolument.
Je partage, puisque je parle très fort aujourd'hui, ça doit être
Vous êtes clairement à radicaliser, cher ami.
Régis
de Castelnau.
Ce que je veux dire, c'est que pourquoi la presse?
Ouais.
Pourquoi, je vais sourire, pourquoi est-ce que Mélenchon et Ruffin courent derrière maintenant? Parce qu'ils ont eu les sondages. Et c'est extraordinaire de voir qui soutient. Alors, sur la droite, c'est parfaitement exact. 84% des électeurs républicains soutiennent.
Bien sûr. Hein,
c'est 79% des employés et des ouvriers. Comme par hasard.
C'est
donc
un
clivage de classe très net.
Oui.
C'est-à-dire que... tout le monde a vu ce sondage, c'est un sondage BV à la Tribune, qui montre un petit peu qu'il y a quelque chose qui se passe, que l'enjeu
de l'essence,
c'est quelque chose de l'ordre du prétexte ou du facteur déclenchant, mais qu'il y a quelque chose de plus large. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour ce qui me concerne, je ne suis pas du tout sûr que ça marche. Je pense que c'est quelque chose qui remonte d'une forme de mécontentement,
de rage. Comment ça, que ça
marche
pas,
quoi, pas nombreux. Non, oui, qu'il n'y ait pas une grande manif.
Bon, de toute façon, il faut faire un million. Je veux dire, soit ils font le million, soit ils ne le font pas.
Ils n'ont pas assez de gilets.
S'ils ne font pas le million,
je ne sais pas. Je pense que c'est... Non, il se passe quelque chose, quoi, c'est très difficile à dire.
Voilà.
Et je pense que le pouvoir... Face à ça, il n'a pas encore les infos pour savoir qu'est-ce qu'il va devoir faire, etc.
J'espère qu'il ne sait pas en fonction des infos. J'espère que le pouvoir ne réagit pas en fonction de ce type d'infos.
Non, en fonction de ce qui se passe dans le pays. Alors, un peu quand
attendez,
même.
On a un appel. On a Lionel en ligne avec nous. Bonjour Lionel.
Oui, bonjour.
Bonjour Lionel. Alors, vous irez manifester ?
Bien sûr, je vais manifester parce que au-delà de tout ce que vous pouvez dire. Tous les jours, c'est la même chose. C'est le carburant, c'est la précarité d'emploi, c'est la santé. Tous les politiques se cachent en fait derrière leur pouvoir. Ils ne font que se gaver, mais se gaver à outrance de l'argent des concitoyens. Et c'est minable. C'est minable. À l'heure actuelle, il faut que ça pète. Il faut remplacer ces gens-là par des experts qui seront capables de redresser le pays. Et arrêtez de laisser monter des
et
gens.
Qu'est-ce que vous voulez dire par expert ? C'est intéressant d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par des experts ?
Des gens capables de raisonner sans le fric derrière, le besoin d'acquérir et de.
Alors là, c'est
de
pas des experts que vous voulez.
Leur petit groupe, voilà.
Ouais. Merci Lionel d'être intervenu 0826 300 300. Et on sent effectivement que c'est au-delà du carburant qu'il y a un ras-le-bol de la pression fiscale, des impôts, mais il y a aussi un effet d'emballement. Moi, je discutais avec quelqu'un qui me disait mais l'essence, machin, mais combien tu payes ton litre ? Je sais pas.
Oui.
Donc il y a aussi
les études
ça.
Montrent que les deux. Plus grosse préoccupation, il y a bien évidemment l'emploi, mais il y a l'insécurité et il y a la question de l'immigration, des migrants qui se mélangent, etc. Les études qualitatives du CEVIPOF le démontrent. Donc tout ça s'exprime. C'est pour ça que moi je suis extrêmement circonspect sur la forme que ça peut prendre ou que ça peut aller.
Moi, ce que je comprends pas dans le comportement d'Emmanuel Macron, c'est vendredi, il a annoncé une réduction drastique du prix du permis de conduire,
c'est bien ça.
Et la facilité d'acquérir une voiture, une première voiture. Mais je comprends pas. On veut en finir avec la bagnole et on favorise.
On est entièrement d'accord, Valérie. Donc
ça, je comprends pas.
Pardon. Il y a une chose très simple à comprendre, c'est que finalement, le gouvernement effectivement donne des signaux pour exciter toute cette montée anti-gouvernementale.
Dire que ça va coûter moins cher de passer le permis.
Mais
c'est
le
pour
permis,
les calmer.
Ils nous expliquent que ils font ça. Dans
pour
un
les
but
jeunes et pour
de transition
l'emploi.
Écologique.
Pour
pardon, moi j'entends dire que c'est contre la pollution.
Je parle du permis,
oui,
là.
Oui.
Non, mais on mélange
attends,
tout.
Attends, Sophie, je termine juste. Ouais. Je suis désolée, comme vient de le dire Valérie, c'est parfaitement incohérent. On nous explique qu'il faut moins de voitures et que ça serait une taxe anti-pollution. Et en fait, là, on vous dit, on va vous rendre de l'argent finalement pour vous acheter une voiture.
Il y a une petite contradiction.
Donc, c'est totalement débile. Pardon, c'est totalement débile.
Non,
et
c'est pas
par
débile.
Ailleurs, c'est chiche. Okay. Voilà. Et après, moi, j'ai entendu donner comme information, il y aura 20 euros par mois pour les gens qui font plus de 30 000 km ou quoi. Je suis désolée.
30 km.
Par jour.
Oui, enfin,
30 000, ce serait un peu beaucoup.
Hein. Non, mais pas par jour, mais par an ou je ne sais pas quoi.
Peu importe, on est d'accord.
Voilà, pour aller travailler. C'est ce que je veux dire. Voilà, mais pour aller travailler.
Mais non, il n'y aura pas de chèque carburant. Hein.
Non. Ah bon,
il n'y en aura pas.
Alors, donc, vous voyez bien que ça sent tout à fait la volonté, je suis désolée, moi je me place plus du point de vue de... Mais si, écoute, on s'exprime. sans radicaliser, on sent qu'il y a, entre les médias qui font monter la sauce, entre le gouvernement qui ne donne pas le chèque et qui fait autre chose, on sent une volonté de faire monter la cocotte minute, quoi.
Non, il n'y a pas de volonté de faire monter la cocotte minute.
Au contraire,
il y a volonté de la faire diminuer, la cocotte minute, de la part du gouvernement. Je voudrais dire que j'en sais qu'apparemment, est vrai qu'il y a un illogisme entre dire « je fais baisser le prix du permis de conduire et je monte un peu le prix de l'essence ». D'un autre côté, il est évident que pour l'emploi, la vraie problématique des jeunes pour trouver du boulot, c'est d'avoir un permis et qu'ils n'ont pas les moyens de l'avoir. Mmh. C'est vrai. Et je pense que d'un point de vue économique, il est évident, en particulier pour ce monde qui souffre, parce que Paris ne souffre moins que les autres du chômage, mais en région, les jeunes, ils ont besoin de se déplacer. Bon. Donc, c'est vrai, c'est un geste qui est un important. D'un autre côté, le prix de l'essence, il faut remettre aussi les choses à leur place. Il y a eu une hausse, la vraie bêtise, c'est qu'il y a eu une hausse du prix du carburant et qu'en même temps, ils ont taxé. Ça, par contre, alors en termes de communication, il faut être complètement jeté. Donc, c'était la hausse du prix du carburant, ok, il y a une hausse, mais taxer par-dessus était idiot. Mais je veux dire qu'il y a des problèmes parallèles. Il y a également le problème de la pollution. Il est en train, ce gouvernement, d'essayer de traiter tous les problèmes à la fois.
On a un appel, on a Eric en ligne avec nous. Bonjour Eric.
Ça marche pas.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je voulais réagir par rapport à... Je rejoins un peu ce qu'avait dit votre candidat, enfin votre auditeur tout à l'heure. Je trouve que, en fait, les hommes politiques aujourd'hui, ils ont plus du tout leur rôle de gestion de la cité à moyen terme et à long terme surtout. On n'a plus aucune stratégie à 20 ans. On ne sait pas du tout où on va. Ils veulent juste être élus. Et en fait, les gens ne peuvent plus parler. Vous-même, journaliste, vous pouvez plus débattre de sujets dont vous avez envie. Tout est complètement castré. Et les gens sont complètement opprimés et doivent suivre et doivent moutonner dans un schéma qui leur est imposé et dont ils n'ont pas forcément été des électeurs. Puisque aujourd'hui, notre démocratie, elle est complètement en souffrance. Puisque quelqu'un est élu et pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut. Et en fait, il est élu par les différents triangulaires, enfin, tous les découpages médiatiques qu'on fait, enfin, médiatiques et statistiques, parce qu'on veut que soit élu un tel ou un tel. Donc, tout ça, c'est touillé. Tout ça, c'est complètement, on va mettre des grands mots, théorie du complot, etc., pour tirer tout ça à la dérision. Non. Mais voilà, c'est le schéma de notre société. Dès que quelqu'un dit quelque chose, on le casse, on se moque de lui, ouais. On caricature pour finalement enlever le fond du vrai débat que pouvait soulever cette idée. Et qui à la fin n'est pas si bête que ça, mais qui est une entrave à ce que tous ces pauvres veulent mettre en œuvre, qui est en fait la théorie du pognon, tout pour les riches, de plus en plus de riches et de moins en moins de pauvres. On pompe de plus en plus de pauvres.
Derrière. Ouais. On vous entend très mal, Eric. Merci en tout cas de votre appel.
Et peu de riches très riches.
Ben, on va en parler des riches très riches et des pauvres riches et des faux.
Je voudrais dire un petit mot sur le gouvernement. L'exécutif, on va dire, parce que l'exécutif, il est bicéphale, il est surtout à l'Élysée, et donc avec une incarnation très particulière par Emmanuel Macron. Et puis derrière, il y a un gouvernement. Il y a une forme de navigation à vue avec une vraie difficulté à appréhender une situation qui est pas facile à appréhender, ça je peux comprendre. Mais regardez ce qui se passe au début avec cette histoire de taxes et d'augmentation. Il y a Wauquiez qui intervient pour condamner le truc, qui fait son travail d'opposition. Et vous avez intelligemment le calamiteux Benjamin Griveaux qui dit la cigarette aux lèvres.
Oui, ce sont les gens qui fument des clopes. Il l'a démenti. Allez, on revient dans un instant et on va parler donc de cette annonce faite par Gérald Darmanin de regarder sur les réseaux sociaux si votre train de vie correspond à vos revenus. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous dans le studio de Sud Radio, on réagit au propos de Gérald Darmanin hier, donc qui annonce que les inspecteurs des impôts vont utiliser les informations qui sont rendues publiques sur les réseaux sociaux pour étayer les redressements fiscaux, notamment donc pour essayer de traquer les signes extérieurs de richesse qui serait excessif par rapport aux revenus officiellement déclarés. Alors moi, j'avais envie de dire que ça existe depuis très longtemps, cette cellule à Bercy. Alors ça se faisait avec les journaux People pour traquer chez les gens. Alors effectivement, maintenant, la différence, c'est que tout le monde aujourd'hui met sur les réseaux sociaux.
On supprime l'ISF et on nous fait du signe extérieur de richesse sur tous les réseaux sociaux. Je suis désolée, c'est débile, pardon Sophie. Là, c'est encore un machin incompréhensible, c'est illisible pour les gens.
Je ne dirige pas encore la France.
Mais je te dis ça à toi parce que tout à l'heure tu disais Macron fait ce qu'il peut, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien qu'effectivement, on élargit la cible. Et parce que les gens, ce qu'ils aiment aujourd'hui, c'est montrer où ils vont, ce qu'ils mangent dans leur assiette.
Ce qui est lamentable.
Ce qui est convivial.
Après tout, c'est bien fait pour leurs pommes.
Non, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est quand il dit on a
alors,
tous connu
des... Alors, ils vont resto, donc ils disent qu'ils ont le RSI ou le RSA. Effectivement, ça ne va pas le faire.
Non, mais il dit on a tous connu des gens qui nous disent c'est pas normal, il y a des gens qui gagnent très peu leur vie et qui sont en train de vivre très largement supérieur à leur revenu. Je peux finir. Juste ça, en général, quand on dit ça, c'est de trafiquants de drogue, de mecs qui roulent dans des BMW, etc. Donc, ces mecs-là, s'ils veulent les arrêter, c'est pas très compliqué si on veut vraiment arrêter les dealers. Et ce n'est pas sur Twitter qu'on va les retrouver.
Il y a un vrai sujet. D'abord, je pense qu'effectivement, avec ce type de phrase, Valérie, vous avez raison, il attise la jalousie sociale où il va dans le bon sens. Le voisin, il roule en Mercedes, et comment qu'il se la paie ? Bon, alors ça, on est, en France, on connaît bien. Donc, la deuxième chose, c'est que oui, il y avait, vous l'avez dit, il y a même un film formidable, nos auditeurs ont certainement vu ça, Signe extérieur de richesse avec Josette Balasco. Et elle vient, elle est contrôleuse du fisc, il est vétérinaire, elle amène son chien.
Vous
n'allez
pas nous refaire le film, il nous reste 8 minutes.
Bon, d'accord. Ouais. Mais elle regarde dans les journaux et il bouffe du caviar.
Oui, mais c'est dans les journaux, Belle.
Oui, je sais. Donc c'est pire là aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux sociaux.
C'est partout, c'est des milliards
mais
de
alors,
gens.
Mais alors, il y a plusieurs questions que ça pose. Premièrement, moi je déteste l'espionnage, je déteste la délation. Je déteste. Je peux pas. Le fisc travaille à 90% sur dénonciation. Pardonnez-moi, je déteste ça. Alors maintenant, vous avez le droit d'être content.
Je plaisantais. Moi, je dis, c'est effrayant. Je déteste ça.
D'un autre côté, dernier point, et j'en ai fini. Les réseaux sociaux, c'est un peu bien fait parce que cette espèce de manie de se montrer, je suis dans
regardez
tel hôtel
comme
de
je suis
luxe.
Heureux, ouais, voilà.
Regardez ce que je suis heureux. Je suis sous un palmier en ce moment. Je bouffe du caviar ou je sais pas quoi. Je déteste ça. Et troisièmement, il y a un problème.
Enfin, les vrais truands ou les vrais escroqueurs, les vrais escrocs, ils sont pas forcément sur Internet.
Ça remet en cause le fait que c'est dangereux les réseaux sociaux. Je félicite Quant et Waller qui sont des réseaux fermés où c'est pas exposé et c'est peut-être pas mal.
Alors Régis, vous
et Ecosia qui plante un arbre chaque fois qu'on fait une recherche.
Bien. Moi, je pense que ça relève d'une annonce populiste, c'est-à-dire on va derrière ça ne rime à pas grand-chose.
Ça doit vous plaire alors.
Oui, je suis.
J'essaye de comprendre la logique.
Bien sûr, non. Oui, mais quand on fait du populisme de cette façon, et surtout qu'on porte atteinte à des libertés, j'aime pas trop.
Le
populisme qui lynche, par exemple, j'aime moyen. Et donc, je pense que ça n'a aucun sens, effectivement, comme vous le dites, Valérie, les gens qui ont des choses à cacher ou qui ont des signes extérieurs de richesse, alors se retrouver dans Vogue, c'est très bien, aller soi-même sur Facebook pour dire, écoutez, regardez ma belle voiture, je pense que, non, c'est une annonce qui n'aura pas grand sens, ils vont continuer à travailler avec les outils dont ils disposent.
On s'habitue à des
initiatives qui sont vraiment, vraiment déplaisantes et inquiétantes. Hein. Quand on voit ce qui se passe en Chine, par exemple, dans la rue...
Gérald Darmanin dit la lutte contre la fraude fiscale va s'intensifier, il y a déjà énormément d'outils, donc c'est un truc de plus. Maintenant, cette annonce... Voilà, a fait l'effet, encore une fois, d'une polémique, polémique
inutile.
Vous voyez
qu'on est dans le même sens et encore illogique.
Absolument. Dominique.
Moi, je pense que c'est assez banal et c'est un peu un enfonçage de porte ouverte de la part de Darmanin, mais je pense que ce n'était pas absolument opportun. Deuxièmement, qui est visé, vous l'avez dit au passage, typiquement en prototype, les trafiquants de drogue qui font les malins avec leurs grosses voitures, après avoir, dans les conditions qu'on sait, obtenu de l'argent qui n'est pas déclaré. Bon, c'est eux qui sont visés. Mais troisième et dernier point, en ce qui me concerne, c'est quand même une étape supplémentaire dans l'apologie de la transparence absolue, qui est la nouvelle idéologie importée des États-Unis et qui, d'année en année, depuis 10-12 ans en France, ne cesse de marquer des points. Il faut tout savoir sur tout le monde.
Et la transparence peut être très néfaste.
Là, je ne parle pas de l'aspect frauder le fisc, mais il faut tout savoir sur tout le monde. Soyons conséquents, il paraît que c'est bien. Oui. Eh ben, on continue.
On a Dust en ligne avec nous. Bonjour, Dust.
Bonjour.
Alors, comment vous avez réagi au propos du ministre de l'Action des Comptes Publics?
Ben, ça m'a fait un peu bizarre parce que, si vous voulez, dans la montagne où j'habite et dans le Comminges qui est au pied, des gens qui se baladent en BM qui disent de la coque, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Cela, je dirais qu'il faudrait plutôt aller chercher dans le milieu à Macron, d'ailleurs, parce que depuis qu'il a été élu...
Oh, les trafics en drogue, c'est tous les copains de Macron.
Si vous êtes au courant du prix du gramme de coque, comme il n'a jamais été aussi peu cher. Non. Je veux dire, s'il y a bien un milieu où se tartine le nez, c'est bien dans la politique, quoi. Donc,
pas que.
Un peu partout au pouvoir.
Toutes les professions libérales qui peuvent se faire payer en liquide.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'aller traquer ceux qui fraudent le fisc à travers les réseaux sociaux?
Je sais pas trop, parce qu'en fait, je suis pas sûr que les vrais fraudeurs, ceux qui vendent des millions à l'État, je suis pas sûr qu'ils postent leur BM sur Facebook. Ouais. Ils sont, je veux dire, le vrai fraudeur, c'est un mec quand même, il a un minimum de bon sens et d'intelligence et de culture. Donc, si c'est pour choper des RMI qui ont triché ou des chômeurs qui se la pètent un peu, ça va nous coûter très cher parce qu'il faut savoir que le problème de la chasse aux fraudeurs, ça coûte cher. Mmh. Donc, il faut qu'elle soit réservée à des catégories qui sont rentables quand on les chope. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. Si c'est pour balancer des milliers de gens de thunes et choper deux ou trois gaziers qui a fait briller sa BM, mais elle a 10 ans, mais elle brille. Donc, voilà, on l'a attrapé. Et effectivement, il était un peu au chômeur, il est au chômage, il triche.
Mais bon,
c'est pas très intéressant, ça.
Merci. Merci, voilà. Merci Dust, merci d'être intervenu. Bon, c'est vrai qu'on ne voit pas bien l'opportunité.
Si on le faisait vraiment, il ne faut pas recruter des milliers de fonctionnaires.
Mais il y a déjà ça. Moi, j'ai connu des exilés fiscaux qui racontaient qu'ils éteignaient la lumière chez eux quand ils venaient à Paris pour pas que le compteur tourne. Ou que, et il y en a qui se sont fait choper par le boucher en accord avec les factures du boucher.
Valérie,
donc il y a déjà
là, vous avez fréquenté par hasard sans doute.
Totalement par hasard.
Très haut de gamme.
Non, mais, même des inspecteurs des impôts vous racontent comment ils traquent. Justement, ces gens qui disent habiter à l'étranger,
mais enfin,
donc c'est
alors,
pas nouveau.
Alors Valérie, imaginez-vous qu'il n'y a pas besoin d'une loi ni rien. Tout le monde peut voir Internet.
C'est l'affichage de
mais bien
de
sûr, Darmanin. Je ne comprends pas, c'est trop facile. Il dit ça pour dire qu'il va faire quelque chose.
Non, non, c'est pas un texte, c'est d'aménager.
Ah bon, il affiche.
Allez, quelques mots quand même sur les cérémonies du 11 novembre.
Ah oui, quand même, c'était historique.
C'était plutôt bien. Moi, j'ai trouvé que le président de la République était plutôt bien.
Alors moi, je vais commencer, si vous me permettez, tout de suite. Je veux vous dire qu'il s'est passé quelque chose qui nous a mis quand même en symbiose dans ce pays. C'est qu'à 11h, vous savez que je suis chrétienne. Voilà. Et hier, c'était un dimanche.
Les cloches ont retenti à 11h.
11 minutes, 11h. Et notre prêtre, notre curé à Saint-Léon, pas très loin d'ici, qui est un quartier militaire en plus, nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Et je ne m'attendais pas à ça 100 ans après. Il nous a appelés à tous défiler après la sonnerie aux morts dans l'église. Pour dire le nom de nos ancêtres disparus pendant la guerre.
Où ça, c'est...
À l'église Saint-Léon, à côté, c'est le père curé Schwab. Je le remercie ici. Ce qu'il a fait était extraordinaire.
C'est très bien.
Je me suis souvenu que j'avais deux arrière-petits-oncles, Pierre et Jacques, qui étaient morts au combat aérien. Bon. Et tout le monde a communié. Et pendant ce temps, ils faisaient la même chose à l'Arc de Triomphe. Et j'en ai encore des frissons là qui se lèvent.
Super.
Et donc pour ça, je dis merci et au curé.
Rapidement, Régis de Castelnau.
J'avais écrit un article dans Causeur.
Très bon journal. Je vous conseille de lire La décadence médiatique.
Qui s'appelait La France fille du soldat inconnu. Et je trouve que ces 4 ans de commémoration ont montré que j'avais raison. Oui, on a commencé.
Oui, d'accord, oui, en 14,
ans,
oui,
2018. Voilà. Et la fin, c'est pas mal passé. Macron aurait pu être à la hauteur parce que ce qui était organisé et tout, je trouvais que ça avait pas mal d'allure. Le problème, c'est qu'il a trouvé le moyen de se mettre dans le jaja avec la phrase sur Pétain, qui était maladroite. Il n'avait pas tort, mais elle a eu un formidable avantage.
Trump, surtout.
Elle a eu un formidable avantage. C'est qu'elle a mis en avant, et là, je plaide pour ma paroisse, elle a mis en avant celui qui aurait dû avoir le bâton de maréchal au moment de la guerre, Castelnau, C'est pas polémique du tout. C'est Clémenceau qui a été mesquin. Hein,
on va réécrire l'histoire.
Trois fils tués.
Trois fils tués
en 14-18. Non, Macron, il s'est mis dans une situation.
Macron a été exceptionnel hier. On est là pour le dire. On n'a plus qu'une minute. Il a été digne, il a fait honneur au pays. Ça a été somptueux.
Est-ce que j'ai le droit de dire
Sophie de Macron
quelque chose? Un petit quelque chose à propos de ses commémorations. On parle d'histoire, hein, je pense que...
Mais c'était bien.
J'ai trouvé ça très très bien, et je disais qu'il y avait eu, c'est quand même, si la presse a titré l'itinérance transformée en chemin de croix, après il a repris
la fin des commémorations pour porter un jugement.
Cette erreur sur Pétain a eu un avantage, c'est qu'elle a permis de mettre en avant un oublié de l'histoire qui n'aurait pas dû l'être, c'est
absolument.
Tout. Voilà.
Dominique, rapidement, vous aussi, vous disiez
Maréchal de Castelnau. L'itinérance baroque et chahutée est une déception.
Et au bout du compte, je dirais globalement un ratage, et le week-end du 11 novembre, une réussite. Et qui était émouvante, de mon point de vue.
Très émouvant. On a été fiers du président
de la République avec les vieux, ça c'est vrai.
Et qu'est-ce qu'il en dit,
André? Mais le reste... Il n'y a pas que Macron.
André Bercov vient d'arriver.
André va vous raconter, va essayer de vous raconter les coulisses de cet étonnant.
Vous avez vu Trump? Vous l'avez croisé ce week-end, non?
Non, mais j'ai croisé l'entourage, et j'ai croisé l'entourage de Poutine, en plus. Non, c'est ce qui est très intéressant, c'est ce qui va rester de tout ça, entre Trump, Poutine, Erdogan, les Femmes et Macron.
Ça, c'est intéressant.
Vous avez un véritable chassé-croisé tout à fait passionnant.
Trump, il a évoqué.
Je n'ai pas aimé le pouce levé de Poutine.
Mais simplement, c'est que Trump et Poutine vont s'entendre ensemble. Ils n'en ont rien à foutre de Macron.
C'est exactement ce que voulait dire ce pouce
mais bien sûr.
Levé. Et j'ai trouvé ça choquant.
Pourquoi choquant? Allez, c'est les politiques. Nous sommes en politique.
Chez nous,
ils n'avaient pas invité Erdogan.
Si vous êtes une macroniste déchaînée, vous auriez dû relever ça. On est d'accord. J'ai commencé par ça. C'était mon coup de gueule. Merci. On est sur la même longueur d'onde. On est sur la même radio, Sud Radio. Et vous retrouverez André Bercov dans quelques instants. À tout de suite.